Voilà, merci Seigneur. Seigneur est fidèle et nous pouvons le bénir en tout temps. On va lire un passage d'introduction, on lira d'autres passages ce matin. Mais tout d'abord, faisons une lecture dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc au chapitre 7 et à partir du verset 24. Luc 7, 24. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération ? Et à qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifié par tous ses enfants. Amen. Le verset qui va retenir notre attention particulièrement ce matin, c'est ce verset 30, où Jésus dira aux pharisiens et aux docteurs qu'en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Dieu a un dessein. Il a un dessein pour chacun d'entre nous. Et il se trouve ici que par leur attitude, ces pharisiens, ces docteurs, ces hommes qui étaient en responsabilité religieuse au sein du peuple d'Israël, qui enseignaient le peuple, qui devaient transmettre la loi, puisqu'il y avait là les pharisiens, qui étaient une secte, enfin un courant religieux au sein du judaïsme, un courant important, et puis il y avait les docteurs, c'est-à-dire ceux qui enseignaient la loi. Et ces hommes-là, par leur attitude, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Dieu avait un projet, Dieu avait un dessein. Il avait quelque chose dans son cœur qu'il voulait mettre en œuvre pour ce peuple, qu'il voulait mettre en œuvre pour ces hommes et ces femmes. Et par leur attitude, par leur comportement, ils ont rendu nul à leur égard ce dessein de Dieu. Dieu avait préparé bien à l'avance son dessein, bien à l'avance son projet, puisqu'il est dit « Christ au temps marqué est venu ». Dieu avait marqué le temps et les époques, et il est venu. Et pour bien préparer les choses, Dieu avait déjà, dès l'origine, annoncé la venue de ce Rédempteur, déjà, même lors de la chute. Lorsque Adam et Ève ont chuté, eh bien, il parlera de cette postérité de la femme qui va écraser, eh bien, la tête de la postérité du diable. Et puis, à différentes reprises, Dieu a suscité des prophètes pour annoncer ces jours-là, comme Moïse qui avait annoncé la venue du Messie et bien d'autres prophètes encore. Nous en avons eu ce matin encore un aperçu avec le texte dans le prophète Ésaïe. Puis, lorsque les temps sont venus pour préparer la venue du Fils de Dieu, du Messie, Dieu a envoyé Jean-Baptiste et cette voix qui crie dans le désert et qui a préparé le chemin, eh bien, devant Dieu et qui a prêché un baptême, oui, de repentance. Son message était un message de repentance et son baptême était un baptême de repentance. Tous ceux qui acceptaient le message de Jean-Baptiste, eh bien, montraient par là, en se faisant baptiser, que cette repentance était vraiment dans leur cœur, qu'ils changeaient de comportement. Et Jean-Baptiste a donc préparé la venue du Seigneur. Le Seigneur avait donc préparé les choses. Mais les pharisiens n'en ont pas voulu. Les pharisiens, d'une manière générale, ont refusé le message de Jean-Baptiste, celui qui était dans les déserts, qui se nourrissait de miel et de sauterelles sauvages, celui qui était là et qui prêchait dans les déserts. Ils ont rejeté son message. Le Fils de Dieu est venu et ils ont aussi rejeté son message pour différentes raisons. Pour Jean-Baptiste, il disait « il a un démon ». Et pour Jésus, il disait « c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie ». Quoi qu'il fasse, le message de Dieu, la parole de Dieu, était rejeté par les pharisiens et par les docteurs. Dieu a un dessein. C'est-à-dire que Dieu a dans son cœur un projet. Nous avons aussi nos projets, mais Dieu a le sien. Dieu a tout fait pour un but. Dans le Proverbe 16, au début de ce chapitre 16 des Proverbes, il est parlé des projets de l'homme et il nous est parlé aussi de ceux de Dieu. Et au verset 4, il est dit que Dieu a tout fait pour un but. Donc, lorsque Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, c'est pour un but. Et il est même rajouté, même le méchant, pour le jour du malheur. Dieu a tout fait pour un but. Et Dieu veut que sa création soit heureuse. Lorsque nous lisons le début de la Bible, la Genèse, eh bien, on voit que, eh bien, Dieu vit que tout cela a été bon. Dieu a fait toutes choses pour qu'elles soient bonnes, pour qu'elles soient agréables. Et même, il a, créé Ève pour que Adam ne soit pas seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, hein. Et donc, Dieu voulant le bonheur de sa création, eh bien, fait les choses en sorte que, eh bien, sa création puisse vivre dans le bonheur, puisse vivre dans la joie. Dieu a tout fait pour un but. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, parle de ce que Dieu nous a créé. En Christ, nous avons été rachetés afin que nous servions à la louange de sa gloire. Donc, on voit là encore, eh bien, un but que Dieu veut, c'est que nous servions à la louange de sa gloire. Et nous, les uns et les autres, nous avons été créés, nous avons été rachetés par le sang du Seigneur Jésus-Christ pour célébrer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là aussi le but de Dieu, c'est là le projet de Dieu. Et un peu plus loin, toujours dans Éphésiens au chapitre 1er, verset 9, l'apôtre Paul parle des desseins bienveillants de Dieu. Alléluia. Les desseins de Dieu, ils sont bienveillants. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est amour. Et lorsque Dieu pense à nous, nous le savons, il a un dessein bienveillant à notre égard. Déjà, le dessein bienveillant par excellence, c'est celui du salut. Merci Seigneur. Dieu veut que, eh bien, nous puissions être sauvés comme il voulait que ces pharisiens et ces docteurs de la loi soient sauvés. Mais en refusant le message de Jean-Baptiste et en refusant de se faire baptiser par lui, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Dieu veut nous sauver. Alléluia. Que son nom soit béni. Et puis, nous savons que tout ce que Dieu veut pour nous, c'est pour notre bien. Dieu est bienveillant. Les desseins bienveillants de Dieu, ces œuvres que Dieu a préparées d'avance, nous savons que Dieu ne fait pas les choses comme ça à la dernière minute. Même si nous, il nous semble que c'est fait à la dernière minute, c'était déjà préparé pour Dieu. Nous, ça nous paraît soudain. Peut-être dans notre vie, il y a des choses comme ça qui arrivent subitement, mais ça ne veut pas dire que Dieu a au dernier moment prévu quelque chose de nouveau. Non, Dieu avait prévu toute chose. Eh bien, à l'avance, nous le savons, eh bien, Dieu pense à nous avant la fondation du monde. Nous étions déjà dans son cœur, comme nous l'avons si bien chanté tout à l'heure dans un de ses cantiques. J'aimerais, avant d'aller plus loin, prendre deux exemples que nous connaissons bien. Celui, tout d'abord, du roi David. David, on va lire un passage dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. S'il est parlé, on n'a pas lu ce qui était avant et ce qui était après, il parlait de la résurrection de Jésus. David, qui, dans ses différents écrits dans les psaumes, avait annoncé ce jour-là. Mais ce que j'aimerais retenir ici, c'est qu'il est dit de David qu'en son temps, il a servi au dessein de Dieu. Quelle belle expression. David a servi au dessein de Dieu. Alors, on connaît l'histoire de David, le roi qui fut avant lui, qui a été choisi mais après rejeté, Saül qui se comportait mal et qui s'est enfoncé dans le mal malgré la présence du prophète Samuel et les paroles du prophète Samuel, mais Saül donc s'est enfermé dans la désobéissance, dans la jalousie, dans la colère, et Dieu a suscité un homme. C'était prévu à l'avance. Dieu n'est pas pris au dépourvu, disant mais bon maintenant Saül il n'est pas selon mon cœur. Qui sait que j'ai bien pouvoir choisir? Non, c'était prévu à l'avance. Et j'en veux pour preuve la promesse et les prophéties qu'il y avait à l'égard de la tribu de Juda. David vient de la tribu de Juda. On est d'accord. Est-ce que Saül en fait partie? Non. Saül ne fait pas partie de la tribu de Juda. Donc Dieu savait déjà à l'avance ce qui allait se passer. Et il savait, sachant ce qui allait se passer, bien sûr, qu'il avait un dessein particulier pour le peuple d'Israël, pour David, bien sûr. Mais David n'a pas servi simplement pour sa propre vie à lui, mais il a servi pour le peuple d'Israël. Et au-delà de cela, nous voyons les répercussions de ce qu'a pu faire David et aussi de ce qu'il a pu écrire dans les psaumes. Bon nombre des psaumes de David sont prophétiques à l'égard du Seigneur. Il a servi au dessein de Dieu. David a été suscité par Dieu alors qu'il était encore qu'un enfant. David, alors qu'il gardait les troupeaux de son père, était capable, alors qu'il était un enfant, de se dresser contre l'ours et contre le lion. David, donc, déjà montrait par là un certain courage, mais aussi David montrait un cœur pour Dieu alors qu'il n'était pas encore roi. Cet homme, eh bien, était un homme de foi, un homme qui cherchait la gloire de Dieu, qui voulait que Dieu soit glorifié. On le voit bien dans son combat, eh bien, contre Goliath. Il a servi au dessein de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous voulons nous aussi considérer que nous ne sommes pas sur cette terre, eh bien, par hasard. Quand bien même nous serions 7 milliards sur cette terre et quand bien même on serait encore plus, chacun d'entre nous, Dieu a un projet, Dieu a un dessein pour nous, mais aussi pour son œuvre, et nous voulons nous aussi servir au dessein de Dieu, que Dieu soit béni. J'aimerais prendre un autre exemple, c'est celui de l'apôtre Paul. On connaît les débuts de la vie de Paul, au chapitre 9, verset 15, on va lire ce verset. Le début de la vie de cet homme a commencé dans un intégrisme religieux, pour ne pas dire un fanatisme religieux, mais Dieu va l'arrêter. Le Seigneur va l'arrêter parce que il avait en vue quelque chose pour Saul, pour Paul, Saul de Tarse. Au verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Paul vient de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas, et il envoie Ananias prier pour lui. Il va le recevoir, et nous savons que Ananias tique un peu parce que il a appris tout ce que Paul faisait, tout le mal que cet homme faisait aux chrétiens. Il est jeté en prison, et parfois même, c'était pire que la prison. On peut comprendre les réticences d'Ananias, mais le Seigneur va lui dire, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Vous savez, Dieu a des projets. Il avait un projet pour cet homme, mais au-delà du projet qu'il avait pour cet homme, c'était pour annoncer l'évangile aux nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ça se fera pas sans difficulté parce que le Seigneur va lui montrer aussi tout ce qu'il doit souffrir pour son nom. Le Seigneur a choisi et il a fait de lui un instrument. Est-ce que nous voulons croire, est-ce que nous pouvons croire que parmi ceux qui aujourd'hui tuent des chrétiens, les torturent, il y a de futurs apôtres? Ça nous dépasse, hein. Parmi tous ces gens qui font du mal, tous ceux qui se comportent mal, il y a un projet de Dieu. Ça nous dépasse. Et il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Si c'était à nous qui revenait la responsabilité de choisir telle ou telle personne pour accomplir tel plan, on choisirait vraiment quelqu'un de formidable, peut-être quelqu'un qui est très riche, quelqu'un qui a des compétences, quelqu'un qui a des diplômes à plus en finir. Mais c'est pas comme ça que Dieu agit. C'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu a un projet. Et il a choisi Saul de Tarse, cet homme qui avait joint son suffrage aux autres lorsque il a fallu lapider Étienne. Cet homme dont il est dit qu'il ravageait l'Église, c'est lui que Dieu va choisir pour porter son nom aux nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Dieu a un dessein. Alléluia. Dieu a un dessein pour chacun d'entre nous et nous voulons, dans la foi, dans la confiance et dans l'obéissance, entrer dans ce projet que Dieu a pour nous. Alors, pour revenir à notre texte d'introduction, comment pouvons-nous rendre nul le dessein de Dieu à notre égard? C'est quand même terrible, ça. C'est-à-dire que, et on pourrait même traduire anéantir le dessein de Dieu. Tout à l'heure, quelqu'un, dans sa prière, parlait du libre arbitre. C'est vrai que Dieu nous a fait libre. Avec cette capacité de choisir. On le voit déjà dès l'origine, avec la chute d'Adam et Ève. Dieu nous a doté de cette capacité de pouvoir faire nos choix nous-mêmes. On vous l'a probablement dit, et peut-être moi-même je vous l'ai déjà dit, que le verbe « pécher » en hébreu signifie littéralement « manquer la cible ». Manquer la cible. Là, on a l'image d'un tireur avec un arc qui va décocher une flèche et qui va viser la cible. Voilà, j'ai plusieurs cibles là. Mais heureusement que ce n'est pas moi qui tire parce que je n'ai pas de bons yeux. Mais voilà, on a eh bien, une cible qu'il faut atteindre. Qu'il faut atteindre. Et pécher, c'est rater la cible, manquer la cible. Il y a une cible que Dieu a prévue pour nous. Il y a un projet que Dieu a prévu pour nous. Que nous servions à la louange de sa gloire. Quand nous nous écartons de cela, eh bien, nous sommes en dehors du plan de Dieu. Nous sommes en dehors du plan de Dieu et nous péchons. Dans Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 23, verset 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Écoutons bien ce que le Seigneur dit. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu avait un projet, Dieu avait une volonté, et il l'a réitéré plusieurs fois. Le Seigneur dit, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? C'est ce que Dieu voulait, et c'est pas arrivé une seule fois, mais plusieurs fois dans l'histoire, dans cette histoire d'Israël, plusieurs fois Dieu a voulu rassembler ses enfants, et il a même pris cette image, d'une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. On y voit la tendresse, l'affection du Seigneur pour son peuple. Et il l'a fait, non pas dans un but pour les détruire, mais vraiment, on voit cette image de tendresse qui est là. Parce que Dieu veut le bien de son peuple, parce que Dieu est un Dieu bienveillant, il a des desseins bienveillants. Et donc, c'est ce que voulait faire le Seigneur. Et là, eh bien, il est dit, et vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Il y a d'un côté ce que Dieu veut, et d'un autre côté ce que le peuple veut. Et le peuple n'a pas voulu que Dieu les rassemble comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Le peuple n'a pas voulu entrer dans la volonté de Dieu, n'a pas voulu rentrer dans ses projets de Dieu. Et ils ont anéanti par là même, ils ont rendu nuls par là même les desseins de Dieu. Le libre arbitre. Dieu respecte nos choix. Mais de toute manière, il faut bien se dire qu'il est le premier, qu'il est le dernier. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et qu'un jour, de toute manière, tout genou fléchira devant lui. Aujourd'hui, il nous invite. Aujourd'hui, il nous convie à entrer dans ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous, à entrer dans son dessein, dans ses projets, dans ce qu'il veut pour nous. Nous avons le choix de dire oui, de dire non. Mais un jour, de toute manière, nous serons contraints de fléchir les genoux devant lui. Nous voulons, eh bien, dans la foi, eh bien, considérer ce que Dieu veut pour nous. Et quand on lit la parole de Dieu, on voit que c'est quelque chose de récurrent dans l'histoire, non seulement du peuple d'Israël, mais dans l'histoire de l'humanité entière. C'est le cas pour la tour de Babel, par exemple. Dans Genèse, chapitre 11, on a un exemple. Genèse, chapitre 11. Verset 4. Il dit encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Babel, un lieu de confusion. Mais ça ne paraît pas comme ça, peut-être, quand on lit le texte, mais c'est un lieu de rébellion contre Dieu. C'est un projet de rébellion contre Dieu. Les hommes se sont dit, allez, on va se bâtir une ville et une tour qui touche le sommet au ciel. On va se faire un nom. Voilà, ça c'est... On voit vraiment déjà là le désir de gloire humaine. On va se faire un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Sauf que là, c'est vraiment une rébellion, puisque Dieu leur avait dit de se disperser. Quand on lit les textes, les chapitres précédents, notamment au chapitre 9, et c'est le verset 7, Dieu leur avait dit de se répandre sur toute la terre. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'inverse. Ils veulent rester au même endroit, tous au même endroit. Ils ne veulent pas obéir à cela. Et ça, c'est pas question, j'allais dire, du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'existait pas encore, là. Nous sommes après le déluge. Et on voit qu'en fin de compte, le cœur de l'homme n'a pas changé. Et que quelques décennies après le déluge, déjà, eh bien, il y a à nouveau cette rébellion contre Dieu. Il y avait ce que Dieu voulait, qu'il se répande sur toute la terre, mais aussi ce que les hommes de l'époque voulaient, être ensemble au même endroit. Alors, Dieu a forcé les choses, on va dire. Il a confondu leur langage afin qu'ils ne s'entendent pas, ils ne s'entendent plus les uns les autres et ils ont été ainsi dispersés selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu s'est quand même faite. Elle s'est quand même faite. Alors, il y a notre volonté et la volonté de Dieu. Pour revenir à notre texte d'introduction, on peut y voir aussi, dans ce chapitre de Luc, dans notre texte d'introduction, une autre raison. La pression du groupe. Vous voyez, les pharisiens entre eux, et les docteurs de la loi. La pression du groupe. Quand vous savez qu'un groupe majoritairement pense quelque chose, eh bien, il y a une pression dans ce groupe. D'autant plus qu'il y avait des menaces. Si quelqu'un reconnaissait que Jésus était le Messie annoncé, il était exclu de la synagogue. Il y avait une menace réelle. C'est pour ça que Nicodème est venu de nuit voir Jésus. Comme ça, ni vu ni connu, il était intéressé par le message de Jésus, mais il ne voulait pas des représailles. Et on pourrait citer d'autres cas encore où l'on voit cette pression du groupe qui était là, qui en fait que, en fin de compte, même si certains croyaient en Jésus, ils n'en faisaient pas l'aveu publiquement. Et ils ne voulaient pas. Et quand on se fait baptiser, le baptême de Jean, c'était quand même public. C'était quand même public. Les apôtres, les disciples de Jésus, eux aussi baptisés. Et là encore, c'était public. Donc ils ne voulaient pas, eh bien, pour ceux qui croyaient au message de Jésus ou de Jean-Baptiste, eh bien, le dire, le confesser publiquement dans la crainte des représailles, la pression du groupe. La pression du groupe. Alors quelques-uns, il est vrai, ont quand même osé le faire, merci Seigneur, parce que le Saint-Esprit touche les cœurs, mais d'une manière générale, cette pression du groupe a rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. On pourrait y voir, en tout cas, beaucoup d'autres raisons, comme l'attrait de ce monde, comme par exemple pour le jeune homme riche, qui était plus attaché à ses richesses qu'à la gloire du Seigneur. En tout cas, lorsque nous anéantissons et que nous rendons nul à notre égard le dessein de Dieu, cela attriste notre Seigneur. On pourrait parler de la tristesse de Dieu. La tristesse de Dieu. On la voit, cette tristesse du Seigneur, lorsque il monte à Jérusalem et qu'il pleure. La foule est dans la joie et dans la liesse, mais lui, il pleure. Parce que Jésus voit ce que la foule ne peut pas voir. Il voit ce que la foule n'arrive pas à voir. Il voit cette ville qui est sans cesse en rébellion, qui sans cesse refuse d'entrer dans ce que Dieu veut pour lui, et ça le fait pleurer. La tristesse de Dieu. Parce que, en fin de compte, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons heureux. C'est que nous soyons heureux sur cette terre. Est-ce que les hommes le veulent ? En tout cas, il y a toujours un temps pour se ressaisir. Un temps pour dire, oui Seigneur, maintenant, je rentre dans ce que tu as prévu pour moi. C'en est assez d'avoir rendu nul à mon égard le dessein de Dieu. Je veux rentrer dans ce que tu as prévu pour moi. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, nous le savons, comme ce brigand sur la croix qui, au dernier moment, eh bien, a reconnu en Jésus le Fils de David, a reconnu en Jésus le Messie. Il n'est pas trop tard pour aujourd'hui accepter le Seigneur Jésus et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. On va prier le Seigneur ensemble. Béni sois-tu, Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous aides, Seigneur, à plier les genoux devant toi, Seigneur. C'est toi qui nous aides à te suivre, Seigneur, à marcher à ta suite. Quel bonheur de te suivre. Quelle joie de te suivre. L'apôtre Paul, même au sein des souffrances, parlait de cette joie, Seigneur, qu'il y a de te connaître, qu'il y a d'être en toi, Seigneur. Ô béni sois-tu, Seigneur. Quand bien même, Seigneur, tout, Seigneur, nous écarterait de toi, nous voulons vraiment être pleinement consacrés, Seigneur, pour servir à la louange de ta gloire. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous voulons vraiment considérer ce à quoi tu nous appelles, Seigneur. Et nous savons que ton appel vaut tous les appels de ce monde, Seigneur. Alors nous voulons te suivre, à toi soit toute la gloire, Seigneur, dans les sentiers que tu as prévus pour nous. Béni sois-tu, Jésus. Amen.